votre rendez-vous sportif sur RBB. Studio Sport. Studio Sport, commentaires, rencontres, résultats, des invités, dirigeants de clubs, joueurs, entraîneurs. Studio Sport. Studio Sport. Vivez le sport sur RBB. Studio Sport.
Vous êtes dans Studio Sport et maintenant laissons place à l'invité du jour. Quand on parle d'athlétisme dans le Bergeracois, son nom revient forcément parce qu'avant de devenir international français sur marathon, avant les grands championnats européens ou les grosses performances nationales, il y a eu Bergerac, les premiers entraînements ici, les premières courses locales, toute une progression construite d'année en année. Aujourd'hui encore, malgré le très haut niveau, Yoann Durand reste profondément attaché à ses racines bergeracoises et surtout, il continue de faire vivre la course à pied autrement. Entre les réseaux sociaux, les contenus qu'il partage autour du running, son regard sur l'évolution du marathon moderne, son rôle auprès des amateurs et des professionnels et son image très accessible dans le monde de la course. Bonjour Yoann, merci d'être avec nous sur RBB.
Bonjour à tous.
Ça va ?
Ouais, impeccable, merci.
Tout d'abord, avant de commencer l'interview, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas.
Bah ouais, comme tu l'as très bien dit, je suis bergeracois. J'ai grandi à Montbazillac, sur le coteau, fils de vigneron. Et donc voilà, j'ai démarré la course à pied à l'âge de 15 ans. Juste avant ça, je jouais au foot, justement à Montbazillac avec les copains. Un petit club plutôt sympa, sans prise de tête. Juste, je kiffais jouer avec mes potes. Et puis un jour, sur les cross UNSS, j'étais collégien au Cluzeau à Sigoulès. J'ai fait toute ma scolarité dans le quartier. Et c'est là qu'on a détecté un certain talent pour la course à pied. Et du coup, le prof de sport m'a conseillé de rejoindre le club d'athlètes de Bergerac, chose que j'ai faite. Et là, tout de suite, on a décelé un potentiel en moi. Donc après, il a fallu que je m'entraîne. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à passer des caps comme ça. Et donc à progresser. Et j'ai eu la chance de faire carrière dans le sport de haut niveau et c'est une grande fierté. Et puis voilà, je vis toujours à Bergerac. J'ai toujours été attaché à vivre ici, même toute ma carrière. Même quand j'étais jeune, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de rejoindre le Pôle France de Talence, même l'INSEP à Paris ou autre. Et j'ai toujours refusé parce que j'avais l'impression que je me sentais bien ici et que mon équilibre se trouvait justement en Dordogne. Et donc, je suis toujours resté attaché à Bergerac et ses environs, quoi.
Donc, pas de regret d'avoir arrêté le foot?
Ah non, pas de regret, pas de regret. J'aurais eu une vie totalement différente, ça c'est sûr. Au début, c'était pas évident parce que passer d'un sport co où on joue avec les copains, avec les potes avec lesquels je faisais les 400 coups en primaire et tout, à un sport qu'on connaît pas avec des codes totalement différents, un sport individuel avec des gens qu'on connaît pas forcément, c'était pas évident les premiers mois. Et puis au fur et à mesure, après, tout de suite, les résultats se sont fait sentir et puis j'ai commencé à aimer parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un gros engouement de la course à pied, mais moi je comprends tout à fait les gens qui disent j'aime pas courir, parce que moi au début je comprenais pas non plus le fait de courir après rien. C'est à dire moi je venais du sport du foot où on jouait les entraînements, on jouait avec un ballon, il y avait un score, il y avait un truc. Et quand je me suis dit ouais, en fait il faut faire un sport où le seul juge de paix c'est un chrono, ou juste le dépassement de soi, la fierté que t'as c'est de t'être dépassé, je disais c'est quand même un peu bizarre. Et puis au final, au bout de quelques semaines, je vous jure, et vous êtes vite piqué. Et on le voit aujourd'hui avec le running et l'engouement de la course à pied, c'est assez dingue, la façon dont la course à pied peut vous happer d'un seul coup.
Ouais, on va en reparler de l'engouement qu'il y a maintenant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en général avec les marathons, les inscriptions. Yoann, avant de parler de performance et de haut niveau, il y a forcément cette image du gamin de Bergerac qui découvre l'athlétisme ici, dans un club local, loin des grands centres nationaux, comme on l'a dit, comme l'INSEP. Quand vous revenez aujourd'hui à Bergerac, qu'est-ce que ça vous fait de voir le chemin parcouru ?
Moi, je suis assez fier de tout ce que j'ai pu faire et des moments que j'ai vécu. Je sais que moi, j'étais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais fils de vigneron, donc à la base, je devais vraiment reprendre l'exploitation familiale. J'ai même fait des études, j'ai un BTS dans le commerce du vin, un bac pro viticulture œnologie, donc je devais vraiment travailler dans le milieu du vin et pas du tout me retrouver coureur à pied et dans la course à pied. Et ça m'a amené une autre vie qui est totalement différente. J'ai énormément voyagé, j'ai beaucoup bougé, j'ai rencontré énormément de monde. Et ça, j'aurais eu une vie totalement différente si j'avais pas eu la course à pied qui est rentrée dans ma vie comme ça, sans forcément que je le demande, hein, parce que c'est vrai que des fois on se rend compte qu'on a des talents pour un truc et alors qu'on les a pas nécessairement travaillés. Enfin, j'ai commencé tout de suite à faire des grandes places au championnat de France sans m'entraîner, quoi. Et alors qu'il y avait des athlètes qui s'entraînaient tous les jours ou depuis X années. Donc voilà, des fois il y a des choses comme ça qu'on maîtrise pas. Et effectivement, après, bah, avec le recul, ouais, c'est une grande fierté et puis aucun regret surtout de tout ce que j'ai fait, et je suis vraiment très fier. Et puis surtout, là aussi où je sais que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec passion et avec plaisir, et donc je peux regarder ma carrière sainement sans avoir trop de regrets ou en pouvant me regarder dans une glace et en me disant voilà, t'as fait tout ce que t'avais à faire. Ouais.
Chez les jeunes, vous commenciez déjà à gagner, c'était vraiment... Vous avez commencé la course à pied, direct, il y a eu les podiums, les victoires, ou il y a eu quand même un petit moment avant de monter sur la boîte ?
Bah, c'est pas eu des victoires directes, mais c'était souvent des tops, des podiums. Alors, souvent, ce qui m'est arrivé au championnat de France, c'est de faire quatrième, parce que j'avais pas justement cette... j'ai fait beaucoup de places de quatrième, parce que je manquais un peu d'expérience, un peu de niaque, un peu le petit truc en plus qui peut vous faire gagner des microsecondes, et ça, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, parce que je connaissais pas toujours les codes et tout ça. Mais effectivement, non, dès la première année où j'arrête le foot, je me rappelle mon coach la première année, moi je continue l'athlète et le football, et là il vient me voir, je fais 13e des championnats de France, et il me dit si l'année prochaine t'arrêtes le football, je te promets t'es sur le podium des championnats de France cadet sans aucun problème. Et effectivement, bah, l'année j'arrête donc le foot, je dis aux copains bon bah, j'arrête, je me mets à l'athlète à 100%, et là effectivement je fais deux vice champion de France du 3000 sur piste en cadet, et du coup ouais, là ça a commencé, là je me suis dit en fait ouais, j'aime ça, et en plus j'ai vraiment un niveau. Puis c'est là vous commencez à passer dans le journal, vous commencez à être invité dans les radios comme la vôtre et tout, et quand vous êtes tout jeune et tout ça, c'est des choses qui vous marquent. Quand votre mère elle découpe le papier journal et elle le met dans un carnet, vous dites ouais, quand même là c'est quand même cool.
C'est à ce moment là qu'on se rend compte que la régularité, les entraînements servent à vraiment quelque chose, qu'on c'est pas des paroles en l'air des entraîneurs.
Ouais, effectivement, ouais, c'est là où j'ai pris conscience que avec le travail et si on écoutait ce qu'on nous disait, on peut performer. Il y a eu cette carotte et cette récompense au bout qui a fait que bah voilà, l'année suivante pareil, il m'a dit écoute, si on augmente d'un entraînement par semaine, on peut aller au championnat du monde de cross, faire ta première sélection en équipe de France et tout. Et c'est quelque chose, voilà, ça a eu lieu justement deux ans plus tard, j'étais ma première sélection en équipe de France. Et là, c'est de nouveau une marche supplémentaire, parce qu'après, bah, t'intègres un peu la fédération, t'as des stages nationaux, t'es invité, tu commences à toucher presque un peu d'argent et tout. Et là, je m'en rappelle, après ce championnat du monde-là, je me suis dit, pour beaucoup d'athlètes, des fois, c'est presque pour la moitié. Quand t'as touché à ta sélection, t'es presque heureux, et après, tu te dis, bon, ben voilà, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et tout. Alors que moi, j'avais envie de revivre ça, je m'étais dit, comment je peux combler les 3 minutes d'écart qu'il y avait entre le premier et moi qui avais fait 62e au championnat du monde. Je me suis dit, comment je vais pouvoir m'entraîner pour essayer de faire qu'il y ait plus 3 minutes entre nous, mais peut-être 2 l'année prochaine, puis 1, puis essayer de me matcher avec eux. Donc, ouais, c'est des prises de conscience. Et ouais, moi ça m'a boosté, le fait de franchir comme ça étape par étape, et que bah, j'ai eu la chance aussi qu'à chaque fois les étapes elles soient validées. Et du coup il y a eu des coups d'arrêt, hein, dans ma carrière, ça c'est une certitude, mais au début c'était quand même assez linéaire et assez propre. Ouais.
À ce moment-là, vous vous dites que votre place elle est vraiment faite là, au niveau international, ou vous vous dites quand même il y a du chemin à faire, ça va être quand même dur?
Non, là je me disais qu'il y avait encore du chemin à faire, parce que justement j'étais quand même assez loin des meilleurs mondiaux. Je me suis dit, pour en vivre et tout, là je termine 62e des championnats du monde, c'était très bien, c'était ma première sélection, mais je savais que pour en vivre ou pour pouvoir espérer mieux, il fallait faire mieux que ça. Donc il a fallu que je m'entraîne encore plus. Et après, c'est l'année suivante, dans les années espoir, donc espoir c'est moins de 23 ans, où là je termine vice-champion d'Europe du 1500 mètres. Et là effectivement c'est un vrai cap supplémentaire, parce que du coup après bah, je peux intégrer la fédération en tant qu'athlète pro, quoi, semi-pro. Et du coup après ça me fait basculer un tremplin. En plus c'est le moment où j'arrête les études, je termine mon BTS, et là c'était la question, est-ce que je vais travailler avec mes parents sur l'exploitation, ou est-ce est-ce que je tente d'être coureur à pied professionnel? Et le fait de faire cette performance m'a ouvert des portes avec des sponsors, avec des partenaires et tout, qui a fait que j'ai tenté l'expérience course à pied. Et puis après, bah, ça m'a amené à aujourd'hui, quoi.
Et est-ce qu'on peut en vivre de tout ça, de la course, du sport en général, ou vraiment il y a quand même pas mal de choses à côté quand même?
Non, au début c'est très compliqué, surtout que bon, c'est un sport, c'est l'athlétisme, hein, on est loin du football, on est loin du rugby, on est loin de tout ça. En plus, la vraie difficulté, c'est que on n'est pas un sport co, donc en termes de médiatisation, il n'y a pas tous les week-ends une compétition ou autre. L'avantage du sport co, c'est que même quand vous êtes blessé, vous recevez votre salaire si vous êtes payé par votre club. Nous, en tant que sport individuel, le jour où je ne vais pas en compétition, bah, je ne suis pas payé vu que je n'ai pas de performance. Donc, en cas de blessure ou de choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ouais, non, les premières années ont été compliquées. J'ai eu la chance d'intégrer un poste à l'armée, au bataillon de Joinville, où j'ai été détaché pour pouvoir m'entraîner pendant presque 11 ans. J'ai bénéficié d'un poste comme ça sur lequel, bah, du coup, je faisais quelques compétitions militaires, je faisais des représentations, des choses comme ça. Et à côté de ça, eux, ils me laissaient tranquille pour me préparer pour mes différents grands événements. C'était un partenariat comme ça entre le ministère de la Défense et le ministère des Sports. Il y a 80 postes en France qui sont faits comme ça pour les sports un peu mineurs. Et donc, j'ai bénéficié de ça. Et puis après, bah, c'est les partenaires, c'est les institutions. C'est aussi la volonté des mairies ou des départements, des régions de faire en sorte d'aider plus ou moins les sportifs. Et ça, bah, c'est vrai que ça a toujours été plus ou moins compliqué, mais voilà, il y a eu 3 années où je suis parti, j'ai été licencié en région parisienne, au CA Montreuil, parce que c'était beaucoup plus simple pour moi pour passer des étapes dans un gros club et tout. Et après, je suis vite revenu ici. Et après, voilà, j'ai des fois le département ou la ville de Bergerac m'ont suivi dans mes projets. Donc tout de suite, quand t'as l'appui des collectivités comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple, mais c'est pas toujours le cas et c'est jamais évident. Surtout, la vraie difficulté, c'est quand on est jeune. Aujourd'hui, j'en vis beaucoup mieux que quand j'étais jeune. Après, la course à pied est beaucoup plus à la mode. Mais au début, c'est compliqué, ouais.
Et quand est-ce que vous vous êtes dit, maintenant, je vais passer au marathon? Parce que bah, avant tout ça, vous êtes passé quand même au demi-fond, etc. Ouais. C'était quoi le déclic?
C'était un peu une usure mentale et physique un peu de la piste. Voilà, je voulais découvrir autre chose. Ça faisait en 2015, j'avais 30 ans et je m'étais dit c'est le bon moment pour passer sur marathon, parce que le marathon est une discipline exigeante et qui demande de l'expérience et on n'est pas tout de suite performant sur ses premiers marathons. Et donc du coup, je me suis dit voilà, faut que je bascule assez vite de la piste vers le marathon, parce que c'est quand même un grand écart, c'est pas du tout le même effort. Et voilà, je commençais à en avoir un peu marre de la piste, je me blessais, j'avais des soucis au tendon d'Achille et tout, et je me suis dit vas-y, faut que je relance ma carrière et je vais me lancer sur marathon. Donc voilà, c'est en 2015 que j'ai pris cette décision et je la regrette pas, parce que effectivement le marathon est une discipline très exigeante, très difficile, mais par contre qui vous en apprend beaucoup sur vous, sur dans la préparation, sur vous-même et tout. C'est un effort assez magnifique pour ça, ouais.
On pense à quoi pendant 42 km? Parce que c'est quand même long, on a de quoi.
Ouais,
on peut potasser.
Ouais, alors ça dure 2 heures, mais effectivement, c'est assez long. Donc au début, on est concentré, bah, pour ne pas partir trop vite. Donc on a les yeux un peu rivés sur sa montre pendant la première partie de course, les 20 premiers kilomètres. Il faut vraiment calculer ses allures et partir sur l'allure cible à laquelle dans laquelle on s'est fixé un objectif. Rester sur ces allures-là, là, être le plus relâché possible. Et puis après, sur la deuxième partie du semi-marathon, là, faut essayer de se remotiver, parce que c'est là où justement c'est dur, c'est compliqué, on a envie d'abandonner, on a envie d'arrêter, on a envie de ralentir et tout. Et là, justement, le cerveau, il faut qu'il soit en capacité à essayer de trouver des leviers, des moyens de toujours pousser la machine et essayer de se relancer pour des trucs pour pas ralentir. Donc, en vrai, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer à part les premiers kilomètres, ouais.
Est-ce qu'on peut dire que bah, le marathon, c'est vraiment un aspect plus mental que physique par rapport aux autres compétitions?
Ouais, c'est les deux, ouais. C'est les deux, mais le mental joue beaucoup. Quand je faisais de la piste, je faisais du 1500 et du 5000. Un 1500 mètres, c'est 3 minutes 30 et un 5000, c'était 13 minutes 20. Donc, vous êtes à bloc du début à la fin. Des petites erreurs, des petits centièmes ou des petites secondes d'inattention où vous n'êtes pas concentré, bah, ça peut vous coûter cher. Là, sur marathon, c'est beaucoup plus lent. C'est presque une mort à petit feu. C'est-à-dire que tout va bien au début. Au 20e, ça commence à piquer. Au 25e, vous avez un peu mal aux jambes. Au 30e, vous dites qu'est-ce que vous faites là, et au 35, là vous dites allez, il faut absolument que je voie l'arrivée. Donc progressivement, vous êtes en train de perdre pied, et là le mental doit avoir un rôle très important pour justement essayer, comme je disais tout à l'heure, de vous rebooster, vous remotiver et savoir pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes en train de souffrir comme un débile sur le bitume un dimanche matin quoi.
Et comment on explique ce phénomène de mode alors du marathon, parce que ça fait pas rêver non plus quand on entend tout ça.
Ouais, bah c'est juste ce qui est dingue. C'est l'émotion qu'on a à passer quand on passe la ligne d'arrivée, les 100 derniers mètres, quoi. Et quand on passe la ligne d'arrivée, eh ben, on a un tel sentiment de fierté et d'accomplissement qui fait que, ben, en fait, on se dit, ah ouais, mais finalement, les 2 heures ou les 3 heures de galère que j'ai vécu, voire même la prépa et tout, ah, ça valait le coup, parce que quand vous arrivez au bout du marathon, peu importe votre chrono et votre temps, ah, vous avez une fierté, vous avez une espèce d'adrénaline, un mélange d'endorphine, d'adrénaline, de fierté, de tout, que voilà, ça vaut tous les sacrifices que vous avez fait dans la prépa ou dans la course. Et c'est vrai que on est récompensé uniquement par le fait de franchir cette ligne d'arrivée et d'être finisher. Et c'est un sentiment qui est dur à expliquer, mais tous ceux qui ont fait un marathon ou une course ou se sont lancés un défi, en fait c'est un défi, hein. Un marathon, c'est vous inscrivez, mais en fait vous voulez vous prouver quelque chose, soit vous le faites avec un copain, soit vous le faites solo, mais en fait vous vous lancez un défi de vous dire voilà, est-ce que je suis capable de courir pendant 42 km. Et quand vous passez la ligne, ouais, y a un sentiment, vous vous dites plus jamais je fais ça. Et puis en fait vous reposez une heure ou deux, et puis après vous vous dites ah ouais, quand même, finalement j'ai peut-être envie d'en refaire, hein. Et puis généralement le lendemain vous reprenez votre inscription.
Ça devient addictif, en fait.
Ça devient addictif, ouais. On se met dans des états de fatigue et de assez dingue, et puis ouais, et puis après ça devient addictif, c'est une dépendance, parce que c'est, je vous jure que quand vous passez la ligne d'arrivée, vous avez un sentiment un peu comme si vous êtes drogué, sauf que c'est de la drogue pure, quoi. C'est sûrement que de l'adrénaline et des endorphines que vous avez vous-même sécrété en faisant un effort, et c'est assez dingue, ouais.
Et comment ça se passe, la préparation d'un marathon? Parce que je peux pas le faire du jour au lendemain.
Ouais,
quand
là
même.
C'est lourd. Ouais. Là, c'est les conseils que je peux donner. Effectivement, si vous prenez un dossard pour un marathon dans pas longtemps, ou si vous envisagez ça, c'est de le préparer quand même à minima. C'est-à-dire que il faut savoir sur quelle allure vous allez partir, comment vous allez vous ravitailler. Il faut vous entraîner un petit peu. Et voilà, c'est un mix de tout ça pour faire en sorte que le marathon se passe le mieux possible et que vous sortiez pas de ça non plus fracassé. L'idée, c'est pas de sortir avec une blessure ou autre, c'est quand même de bien le vivre. Si vous devez boiter à partir du 20e et terminer les 20 derniers en boitant avec des douleurs de dingue, on le vit quand même beaucoup moins bien que quand le plan se passe plutôt bien. Donc effectivement, si vous préparez un marathon, essayez de le préparer en vous entraînant un petit peu en amont. L'idée, c'est pour moi, même le marathon, pour bien le vivre, il faut le préparer à plusieurs, parce que on peut se booster. C'est-à-dire que des fois, par exemple, le marathon de Paris, il a lieu au mois d'avril, donc ça veut dire que la préparation, elle a lieu de janvier à avril. Et là, quand il fait nuit à 18h, qu'il pleut tout le mois de janvier, février, et qu'il faut aller s'entraîner, si vous êtes tout seul et que vous rentrez du travail, vous avez tendance à vous asseoir dans le canapé, vous vous relevez plus. Alors que si vous êtes plusieurs et que vous vous donnez rendez-vous, bah allez, ce soir on va courir machin truc, ou le dimanche matin, c'est quand même c'est mieux. Et puis de le partager, je trouve que c'est quand même des émotions assez dingues. Ouais.
Quand on vient du Bergerac et qu'on réussit au haut niveau, on devient forcément une source d'inspiration pour les jeunes sportifs du territoire. Ça représente quoi pour vous d'être identifié comme un sportif bergeracois qui a réussi?
Bah, c'est une grande fierté, hein. Non, ça c'est sûr que je suis très fier de ce que j'ai fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux me regarder dans une glace, parce que tout ce que j'ai fait, ça a été fait de façon le plus honnête possible. Je me suis toujours donné les moyens de réussir. Alors après, bah, c'est des sacrifices, c'est des fois beaucoup de déplacements, beaucoup de stages, beaucoup d'entraînement, faire attention à la diététique, à beaucoup de choses. Mais par contre, je regrette rien, ça en valait vraiment le coup. Et d'être comme ça, bah, un peu un exemple. Ouais, non, c'est une grande fierté. Et puis après, Bergerac, quand même, a toujours eu dans son bassin de population beaucoup de jeunes talentueux, que ce soit dans pas mal de sports. On l'a vu avec l'aviron ou autre. Mais en athlé, c'est pas mal. Et en plus, aujourd'hui, on a quand même un équipement qui est beaucoup mieux que moi, ce que j'ai connu pendant mes années de préparation, où on s'entraînait sur la piste en cendré à Gaston Simounet, qui était une piste vraiment des années 50, hein, on va pas se mentir. Et c'était très compliqué de pouvoir faire des séances d'entraînement de qualité là-dessus. Fallait souvent qu'on aille soit à Périgueux, soit à Villeneuve-sur-Lot pour faire des séances d'entraînement, pour avoir accès à une vraie piste. Et donc c'était assez dur. Aujourd'hui, on a un vrai outil à Picayou, avec, on peut même entraîner du sprint, on peut faire de la perche, du saut en hauteur, tout ce qu'on veut. Nous, à l'époque, on pouvait faire que du demi-fond. Alors ça tombe bien, parce que moi, j'étais que doué pour le demi-fond. Mais peut-être qu'à Bergerac, on a laissé passer un talent à la perche, au sprint ou autre, parce que on lui a pas proposé un outil, on n'a jamais pu détecter un talent ou quoi que ce soit. Jamais personne n'a pu franchir un sautoir de perche. Donc c'était une vraie problématique qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et ça, je pense que pour l'athlétisme bergeracois, c'est quand même assez important. Ouais.
Vous essayez de transmettre maintenant votre expérience aux jeunes bergeracois?
Oui, bah la transmission, c'est vrai que quand on est assez vieux et qu'on a plus de 40 ans, ça devient un peu le maître mot, tout le monde nous parle de ça. Donc non, tout ce qu'on m'a appris, j'essaye de le partager. C'est ce que je fais comme tu l'as dit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et après, pareil auprès des plus jeunes bergeracois, j'essaye de temps en temps d'aller les voir à l'entraînement le mercredi après-midi pour voir les jeunes. Et puis c'est beau de voir les jeunes qui se dépassent, parce que souvent on entend, ouais, les jeunes d'aujourd'hui font plus de sport, leur niveau a reculé. Alors je pense que dans la globalité, c'est bien évidemment, c'est vrai et tout. Mais j'aime voir quand il y a encore des petits résistants comme ça, qui le mercredi après-midi et le samedi après-midi sont sur le stade à tourner, à lancer, à sprinter, à faire des trucs. Et ça, c'est encourageant. Ouais. Ils sont pas tous encore sur leur téléphone.
On a des bons espoirs à venir quand même au niveau de l'athlétisme bergerois.
Alors
dans
le haut niveau, je sais pas. Mais après, du moment qu'ils pratiquent une activité physique et qu'ils ont conscience que leur corps, ils vont vivre avec toute leur vie, et que plus ils vont avoir un corps en bon état, plus ils vont faire du sport, plus ils vont être en meilleure santé, mieux ça sera pour eux. Et puis surtout qu'ils se régalent, qu'ils prennent du plaisir. Moi, je les vois surtout avoir le smile, à sauter, à courir, et c'est ça qui est beau, de voir des gamins courir partout. Ils écoutent pas les coachs, mais bon, c'est pas grave, c'est c'est comme ça.
Studio Sport continue dans un instant, mais avant ça, petite pause musicale. On change de rythme avec un titre incontournable, The Beach Is Back d'Elton John. Restez avec nous sur RVB.
Yeah. témoignages, interviews, présentations, toute l'info sport au plus proche de chez vous dans Studio Sport sur RVB.
De retour dans Studio Sport, je suis toujours accompagnée de Johan Durand. Aujourd'hui, vous êtes aussi devenu quelqu'un de très suivi dans le monde du running. Grâce à votre personnalité et votre proximité, vous avez conscience aujourd'hui d'être devenu une figure populaire du running français ?
Oui, c'est vrai que je le vois quand je suis en compétition ou autre, ou en déplacement, c'est vrai que les gens viennent et t'arrêtent, et parce que c'est vrai qu'il y a cette proximité avec avec les gens, et te demande des conseils tout le temps à discuter avec eux, et moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc ça me dérange pas. Mais oui, ça fait bizarre d'être reconnu à l'aéroport ou d'être arrêté comme ça des fois, hein. Et puis après c'est surtout en compétition où là j'entends beaucoup les encouragements des allez Yodu, allez Johan, des choses comme ça que j'entendais vraiment moins. Il y a eu un tournant dans ma carrière, c'est quand j'ai fait 2h09 au marathon de Paris en 2021 qui m'a ouvert pas mal de portes médiatiques. Et depuis ce jour-là, effectivement, j'ai vu un vrai basculement en termes de notoriété par rapport à avant. Alors que j'étais beaucoup plus fort avant, j'avais plus de performances avant. Et pourtant, c'est aujourd'hui où je suis un peu plus reconnu. Mais après, c'est aussi beaucoup le monde de l'influence qui fait que dès que vous êtes un peu médiatisé, vous êtes tout de suite beaucoup plus reconnu qu'à l'époque, ouais.
Vous partagez beaucoup de choses autour de l'entraînement, des compétitions, mais aussi des galères du quotidien du coureur. Pourquoi c'est important pour vous de montrer aussi l'envers du décor ?
Il n'y a pas que les victoires, il y a aussi les défaites, et c'est surtout une vie de sportif de haut niveau, c'est plus, je dirais, 90% de galères pour 10% de beauté ou de magnifique. Et donc ça ne sert à rien de mentir à sa communauté et de dire qu'il n'y a que des belles victoires, que c'est facile, et que non, ce n'est pas vrai, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de difficultés, des moments de doute, des blessures. C'est aussi être authentique et dire que le sport de haut niveau, c'est un endroit merveilleux dans lequel, même quand j'étais jeune, je rêvais même pas de ça parce que je me rendais pas compte, de se dire qu'il y a aussi des difficultés et que par moments, on peut être dans le dur et de montrer. Et puis pour ceux qui veulent vivre ou qui ambitionnent de bien expliquer les choses et comment ça se passe et montrer l'envers du décor, ouais, c'est quand même important, ouais.
Est-ce que le running, le sport de haut niveau, est-ce que c'est vraiment idéalisé selon vous, ou maintenant il y a quand même la vérité qui sort à chaque fois?
Alors, ouais, le running, on sait très bien dans l'imaginaire collectif que c'est dur, que c'est un entraînement, il faut s'entraîner, que comme je disais tout à l'heure, on joue pas au running, on joue au foot, on joue au rugby, on joue au basket, tu peux jouer à beaucoup de sports mais tu joues pas à la course à pied, et que si tu t'entraînes pas, en plus c'est un sport ingrat, pour tous ceux qui l'ont pratiqué, ils le savent. Le jour où tu arrêtes de t'entraîner, tu t'arrêtes une semaine, tu repars, tu as l'impression d'avoir régressé, mais vitesse grand V. Et donc ça c'est ça qui est dur dans ce sport-là, c'est que tu n'as pas le droit de t'arrêter, mais tu n'as pas le droit de perdre du temps. Il faut absolument toujours être focus dans l'entraînement, concentré, à toujours mettre des séances en place, des séances de fractionnés, des choses comme ça pour faire en sorte de progresser. Et donc c'est un sport qui est assez dur. Et donc j'hésite pas à le montrer et à le dire. Et après, les gens qui le pratiquent le savent. Mais comme je le disais tout à l'heure, par rapport, en fait, l'entraînement dans la course à pied, c'est un peu à l'image du marathon. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il y a 200 mètres de pur bonheur, de pure extase, là, qui vont durer pendant quelques heures. Mais avant, c'est que des galères. Avant, c'est que de l'entraînement, c'est que de la souffrance, c'est que du dépassement de soi et tout ça. Et dans l'entraînement, c'est pareil. C'est souvent, on n'a pas envie d'y aller, on met ses baskets, on y va. Et en fait, quand on a fini son entraînement, et là on se dit waouh, ah ouais, là je suis bien, là je suis reposé, je suis fatigué, j'ai éclairci des fois mes pensées, parce que des fois moi je cours, j'aime bien courir quand même sans musique ou sans rien, et t'es tout seul avec tes pensées des fois, moi je m'entraîne quand même assez souvent solo, et des fois tu mets des choses en place dans ta tête, tu repenses à des trucs et des fois tu trouves des idées, des machins, des trucs, et je trouve que la course à pied a cette capacité pour ça, de des fois de te permettre de remettre ta tête en place, quoi.
Donc on arrive quand même à pas découragé les gens malgré montrer la vérité.
Ah non, 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 au contraire, ouais. Je pense qu'en leur disant la vérité, et puis c'est ce qu'ils viennent chercher, je pense, aujourd'hui, ils viennent chercher ce dépassement de soi, ils viennent chercher le fait, comme je le disais tout à l'heure, que c'est un sport ultra accessible, parce que vous pouvez partir de chez vous, vous n'avez pas besoin de réserver une salle, vous n'avez pas besoin d'aller à la piscine, vous n'avez pas besoin d'être plusieurs. Là, vous êtes tout seul, descendez en bas de chez vous, vous mettez vos baskets et vous allez courir. Et vous revenez 45 minutes plus tard. Et vous êtes dans un état, si vous, généralement vous partez, vous êtes fatigué, vous revenez, vous pétez le feu, vous êtes super bien, quoi. Et ça, effectivement, on peut facilement le montrer, ouais.
Depuis quelques années, on en a parlé, la course à pied explose complètement en France, même à l'international. Les marathons affichent complets partout. Vous trouvez que le running a changé ces dernières années ?
Ouais, énormément, ouais. Tout a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un dossard. C'est devenu un phénomène de mode. On voit beaucoup d'influenceurs, de gens comme ça qui viennent dans le milieu du running parce que c'est un peu la mode et parce que du coup ils se sentent attirés par ça et du coup ils aiment ça, ce qui attire des nouvelles générations. Il y a toute une nouvelle génération de coureurs. Moi, quand j'ai commencé, je vais pas vous mentir, le marathon c'était pas ringard, mais c'était la discipline pratiquée par les gens de 50 ans, quoi, qui couraient avec leur t-shirt en coton et leur vieille basket. Aujourd'hui, c'est une discipline tendance, c'est à la mode. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent. Le nombre de jeunes de 20-30 ans dans les pelotons est assez dingue. Ça s'est féminisé. Aujourd'hui, on est presque à 30% de femmes dans les pelotons, alors qu'il y a quelques années, je pense qu'on était plutôt proche des 10%. Et ça fait qu'augmenter presque à 40% de femmes bientôt dans les pelotons. Donc, ça s'est féminisé. Les marques ont compris aussi que c'était terminé l'époque où on vendait juste un t-shirt en coton et tout. Donc, maintenant, on met du textile de qualité avec des couleurs, avec des produits ultra technique et tout, un peu stylé, c'est devenu très tendance. Donc ils te proposent aussi tout ce qui va avec, le sac à dos, les lunettes, la casquette, le short, faut les chaussures assorties et tout. Donc aujourd'hui, ouais, comme c'est devenu un phénomène de mode, les marques ont gagné beaucoup plus d'argent et donc ont investi massivement dans le marketing, dans le développement de l'image. Et du coup, pour l'instant, en tout cas, le marché, pour discuter avec les acteurs de l'économie du running, pour l'instant ne s'arrête pas ou ne stagne pas. C'est en croissance sans cesse depuis le Covid, depuis 2021, où je pense qu'il y a un élément marquant à ce moment-là, c'est le fait qu'on était tous chez soi et que tout le monde s'est mis à courir puisque c'était la seule activité qui était autorisée. Et là, les Parisiens et autres, citadins ou même les gens de la campagne, se sont mis à faire ça et ont vite pris goût à ce sport. Ouais.
Donc aujourd'hui, maintenant, on court pour performer ou pour partager ?
Les deux, ouais. Il y a une frange performance et après il y a une frange partage qui veut courir parce que c'est à la mode, qui se sent bien aussi après avoir couru, qui veut le faire en groupe, qui veut le faire en communauté. Et ça, c'est très bien aussi. Moi, j'encourage le sport santé, c'est aussi voire plus important que le sport performance. Le sport performance, c'est souvent poussé à l'extrême. C'est-à-dire que vous poussez votre corps à l'extrême, c'est des addictions, c'est faire attention à tout. Et on n'est pas dans le volet santé, alors que le sport couru, si vous courez 3 fois par semaine, c'est très bien. Et si vous faites 4 heures ou 4h30 ou 5 heures au marathon, c'est très très bien aussi. Il faut que ça soit juste bien construit, avoir une paire de chaussures bien adaptées et après, il n'y a aucun problème. Ouais.
Dans votre carrière, il y a forcément des courses qui restent plus que d'autres. Le marathon qui vous a le plus marqué émotionnellement, c'est lequel ?
Je pense que c'est le marathon de Paris où j'ai battu mon record, justement celui en 2h09 et 21 secondes, qui m'a fait basculer dans ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait d'être beaucoup plus médiatisé, donc de faire premier français et premier européen au marathon de Paris. J'avais fait la meilleure performance française de l'année, j'étais le meilleur marathonien français à ce moment-là, du coup les marques se sont vachement intéressées à moi. Et du coup, ouais, ça a été un élément marquant dans ma carrière parce qu'en fait, 2019, je me suis fait opérer du tendon d'Achille, donc j'ai pas eu de performance du tout de l'année. 2020, année du Covid, donc pas de compétition ou très peu, enfin quasiment rien, donc rien. Et 2021, je reviens et c'est là où je fais cette performance-là. Et à un moment donné, si j'avais pas fait cette performance-là, je pense que j'aurais arrêté ma carrière beaucoup plus tôt et j'y aurais pas eu ce qui s'est enchaîné derrière. Et parce que ça serait fait 3 ans sans performance et que j'aurais eu plus de partenaires, ça aurait été compliqué de continuer d'un point de vue professionnel. Et puis j'avais 36-37 ans, je me demandais si j'étais encore bon pour la course à pied, parce qu'on le sait, à un certain âge, à un moment donné, le temps vous rattrape. Et je me rappelle que je me posais la question, je me disais presque, bon, bah, là, si tu perfs pas cette année, je vois pas comment tu pourras continuer sur le long terme, quoi.
Quand on est marathonien français de haut niveau, est-ce qu'on pense aux Jeux Olympiques ? Est-ce que c'est dans un coin de la tête ?
Ouais, alors ça l'a été toute ma carrière. Et malheureusement, c'est le seul grand championnat qui m'a échappé dans ma carrière. J'ai fait championnat du monde, tous les championnats d'Europe, championnat du monde et tout. Et j'ai pas fait les Jeux Olympiques. En 2012, c'est le plus gros regret parce que honnêtement, j'aurais dû y aller. Un athlète qui a pris ma place au dernier moment. Et après 2016, j'étais blessé. Et 2019, pareil, l'année post-Covid, enfin 2020, pardon, à Tokyo, qui a été repoussé 2021, j'étais blessé. Et 2024, j'avais plus le niveau, malheureusement. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de m'accrocher. Avec ma performance, j'y ai cru pendant un petit moment. Et puis, je me suis blessé en 2023, quelques mois avant les échéances. Et je n'ai jamais retrouvé mon vrai niveau. Et donc, du coup, après, j'ai pas été sélectionné pour 2024. Mais ouais, ça, c'est quand même c'est le seul grand regret que j'ai dans ma carrière, même si j'y prête pas non plus une grande attention, parce que je me dis que j'ai vécu d'autres beaux moments, ouais.
On sent aujourd'hui un Johan Durand beaucoup plus posé dans son approche du sport. Vous avez l'impression d'avoir trouvé un meilleur équilibre aujourd'hui ?
Ouais, c'est surtout que je suis plus dans le haut niveau. Donc, quand on est dans le haut niveau, on est tout le temps au cœur de l'action. On est tout le temps la tête baissée, tête dans le guidon, et on fonce tout droit. Et puis, des fois, on prend pas le temps de prendre du recul, parce que vous avez toujours des objectifs. Même quand vous êtes en vacances, vous dites, OK, je profite de mes vacances, mais dans une semaine, il faut reprendre l'entraînement parce qu'il y a l'objectif dans 3 mois, puis l'objectif suivant dans 6 mois, puis après c'est les championnats du monde l'année prochaine, et puis les Jeux Olympiques, et puis si, et puis donc du coup vous arrêtez jamais, vous foncez tête baissée et vous prenez pas le temps de prendre du recul, de savourer, de choses comme ça, alors qu'aujourd'hui c'est plus trop mon cas. Aujourd'hui le haut niveau pour moi c'est terminé. Je continue à courir pour le plaisir, je prends encore beaucoup de plaisir, mais voilà, j'ai vachement plus de recul qu'avant, ouais, ça c'est sûr.
Vous êtes moins obsédé par le chrono, en fait, maintenant.
Ah oui, ouais, exactement. Ouais. Moins obsédé par le chrono, moins obsédé par le fait de tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est-à-dire qu'avant, je partais en stage. Là, à l'heure qu'il est, au mois de mai, j'étais en stage à Font-Romeu, dans les Pyrénées, à me préparer pendant un mois et demi à m'entraîner et tout ça, aller au Kenya l'hiver et tout. Cette année, j'ai pas du tout fait ça. Je suis resté à la maison. J'en profite un peu plus. J'ai une vie un peu plus posée, même pour me faire plaisir, pour manger au resto, je fais beaucoup moins de sacrifices qu'avant. Avant, effectivement, dès que tu manges un fondant au chocolat ou un cookie, tu t'en veux pendant plusieurs jours. Là, aujourd'hui, j'ai aucune culpabilité. Hein.
Maintenant, on profite.
Ah ouais.
On parle souvent de l'athlète, moins de l'homme derrière. Quand vous ne courez pas, Johan Durand, vous faites quoi ?
Je suis pas mal occupé par mes activités, justement, que j'ai lancées, qui ont rapport avec la course à pied, hein, puisque on l'a dit tout à l'heure, mais le fait d'avoir été performant sur ma fin de carrière et d'être un peu l'image du marathonien français, j'ai pas mal de partenaires, donc je fais des podcasts avec RMC Running. On enregistre quasiment presque 3 podcasts par semaine en tant que, voilà, moi je viens en tant que consultant, coach et tout ça pour accompagner justement tous ces coureurs. Je me régale à faire ça. Je suis également toujours plus ou moins coach, ambassadeur de certaines marques, que ça soit Orange, que ça soit Garmin, que ça soit Asics. J'accompagne pas mal d'athlètes, je donne du conseil sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça. Je suis aussi dans une app, dans une start-up qui s'appelle Runners, qui propose des parcours de géolocalisation sur mesure pour la course à pied, le vélo ou la marche, c'est-à-dire que vous êtes chez vous. En fait, ça part d'une problématique que moi j'ai rencontrée dans ma carrière. Vu que j'ai beaucoup de déplacements, je suis dans un endroit que je connais pas et je sais pas où aller courir, je lance l'app, j'ai juste à rentrer le nombre de kilomètres que je veux faire ou la durée, et l'algorithme va me calculer, va me proposer 5 parcours. Je vais en sélectionner un des 5 et après je vais être guidé par un GPS audio ou visuel sur le téléphone. Et donc toutes ces activités me prennent du temps parce que voilà, c'est des activités que j'aime faire mais qui ont un lien avec le running et qui permettent de démocratiser un peu le running. La Runners, c'est pour permettre à des gens qui sont en déplacement, en vacances ou qui savent pas où courir, de leur permettre de pratiquer le running. Avec mes autres partenaires, c'est de désacraliser la course à pied, de donner du conseil et tout ça, et c'est pareil avec RMC Running, ouais.
On sent aujourd'hui une nouvelle dynamique dans l'athlétisme, dans le running français, avec beaucoup de jeunes coureurs qui arrivent. Vous trouvez que la course à pied française évolue dans le bon sens ?
Oui, non, il y a des jeunes générations qui sont performantes. Ça, c'est très bien. Je pense que les Jeux Olympiques à la maison ont permis de lancer une vraie dynamique. Après, il faut surfer dessus, il faut continuer à bien les encourager. Mais le fait que le running soit à la mode permet aussi à la fédération de capter beaucoup plus de monde et de pouvoir mettre un peu plus aussi d'argent sur l'élite que ce qui était le cas quand moi j'étais à ce niveau-là. Donc c'est quand même dans le bon sens. Le fait que courir soit à la mode, tout le monde en tire profit, que ce soit les organisateurs de gros événements, les marques, les sponsors ou aussi la fédération. Ouais.
De votre côté, c'est quoi vos prochains objectifs à venir ?
Alors là, je fais du 10 km pour essayer de travailler un peu ma vitesse, parce qu'avec l'âge, on perd quand même en vitesse, je vais beaucoup moins vite qu'avant. Donc saison sur 10 km là, jusqu'en juillet. Donc là, le dimanche, je suis au 10 km des Sables d'Olonne. 15 jours plus tard, je suis au 10 km Adidas à Paris. Et 15 jours plus tard, je suis au 10 km à côté de Saint-Brieuc, là, à Langueux en Bretagne. Et après, ça sera la petite coupure sur fin juin, début juillet, et une reprise mi-juillet, fin juillet pour démarrer la préparation de mon dernier gros objectif route de ma carrière, je pense, qui sera le marathon de Valence. C'est un peu mon dernière fois où je vais m'entraîner vraiment focus, m'entraîner comme il faut. Et après, je basculerai certainement sur un univers que je connais pas du tout et qui m'attire aussi, c'est le trail. Donc, c'est le côté plus côté nature, courir dans la nature sans le chrono, avec du dénivelé, montée, descente, et tout ça qui est totalement différent de tout ce que j'ai fait pendant aujourd'hui près de 25 ans, où j'étais ultra focus sur mes données cardio, sur mes données physio, sur l'allure, sur la vitesse et tout, alors que dans le trail, vous oubliez un peu totalement ça et vous courez simplement à la sensation, et puis après c'est en fonction du terrain, des montées et des descentes quoi.
Donc 2026, c'est la fin d'un grand chapitre quand même.
Ouais, quand même, ouais. Alors je pense que je continuerai à courir sur la route, mais pas dans un objectif de performance, parce qu'il y a des marathons mythiques qui m'attirent. J'ai jamais fait le marathon de New York, j'ai jamais fait le marathon de Chicago, le marathon de Boston ou des trucs comme ça. Ça m'attire énormément, mais plus dans une logique à essayer de faire des chronos, battre des records de performance. Ça sera plus pour kiffer, parce que comme je l'ai toujours dit, honnêtement, quand on fait du marathon à haut niveau, que vous couriez route de la Poudrerie ou à New York, honnêtement, on est focus sur le chrono et sur vos sensations et vous levez pas les yeux. Donc je me suis toujours dit que si un jour j'allais à New York, c'est quand même pour profiter de Brooklyn, de la ville, de Santa, enfin de tout quoi, de Manhattan. Et quand tu cours dans des objectifs qui sont de faire, tu cours presque à 20 l'heure quoi. Et donc à 20 l'heure avec un cardio à 175-180, vous profitez pas de lever les yeux et de vous dire ah tiens là je passe devant la Statue de la Liberté ou autre. Vous êtes vraiment focus que sur votre montre. Et donc c'est pour ça que tous ces gros marathons, je les ai jamais courus en tant qu'élite, ouais.
Donc là, quand vous regardez votre parcours depuis Bergerac, vous êtes fier du chemin parcouru ?
Ah oui, parce que effectivement, comme je disais tout à l'heure, je pensais pas du tout être amené à vivre tous les moments que j'ai vécu, et surtout à voyager autant, à rencontrer autant de personnes. Et c'est une vie totalement différente que si j'avais été vigneron à Montbazillac à tailler la vigne un peu tout seul dans mon lopin de terre. Donc non, c'est totalement différent. Je sais même pas, des fois quand j'y pense, je me dis comment je serais aujourd'hui si j'avais pas fait tout ça. Mais certainement bien différent, ouais. Parce que quand vous allez au Kenya ou quand vous allez en Afrique du Sud ou en Éthiopie ou autre, vous voyez une vie, vous revenez, vous êtes totalement un peu différent parce que vous rencontrez des gens qui sont différents et qui vous apprennent beaucoup sur leur culture, et ça vous ouvre un peu les yeux. Puis après, le haut niveau vous ouvre aussi, vous aide à grandir plus vite, parce que vous êtes obligé de, vous comprenez très vite où est-ce que vous mettez les pieds, et faut être armé, ouais.
Merci Johan d'avoir été avec nous dans Studio Sport. C'était un vrai plaisir de revenir avec vous sur votre parcours depuis Bergerac jusqu'aux plus grandes courses internationales, mais aussi de découvrir l'envers du décor du très haut niveau avec tout ce que ça demande au quotidien. On continuera évidemment à suivre vos prochaines courses avec beaucoup d'attention. Merci à vous de nous avoir suivis sur RVB. On se retrouve dès samedi pour une nouvelle émission. Et oui, n'oubliez pas, lundi c'est férié, donc je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, continuez à soutenir nos équipes et à faire vivre le sport local. À très vite sur Radio Vallée Bergerac.
Studio Sport sur RVB. Présentation des sports, préparation des rencontres, commentaires,
Les avis et des invités, c'est Studio Sport sur RVB.